Aujourd'hui, c'est le journal de Violette Ferreira. Bonjour Violette.
Bonjour. Le dossier des places de parc en ville de Bienne revient sur le devant de la scène. Un habitant a lancé une pétition qui a déjà récolté plus de 900 signatures en une semaine. On fait le point sur ce document dans cette édition. C'est une grande première pour les féminines de la Nati. Les Suissesses sont qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro de football. Elles réagissent dans ce journal après l'égalisation d'hier face à la Finlande. Le jeu des chaises musicales se poursuit au FC Bienne. L'équipe zélandaise de Promotion League de football enregistre de nombreux changements après son épopée en Coupe de Suisse. Le nouveau président du club revient en longueur sur la reconstruction des effectifs, vous l'entendrez. Et côté météo, le temps reste ensoleillé, quelques cumulus peuvent se former sur les reliefs dans la journée. Une bise faible à modérée souffle sur la région. Il fera maximum 27 dans le Seeland, 24 dans les vallons et 18 degrés sur les crêtes. La suppression des places de stationnement public en ville de Bienne inquiète. Un habitant de Bienne, Gary Dobler, a lancé la semaine passée une pétition. Le texte est à ce jour soutenu par plus de 900 personnes. Les détails avec Estelle Herman.
Concrètement, la pétition demande l'arrêt immédiat des suppressions de places de stationnement. Une information transparente sur toutes les mesures prises ou sur celles prévues à l'avenir, sans oublier leurs conséquences sur les habitantes et habitants. Le pétitionnaire attend aussi de la ville une stratégie de mobilité qui tienne compte de tous les modes de transport, y compris le transport individuel motorisé. Il demande aussi davantage de dialogue entre les autorités et la population. Gary Dobler n'a pas encore décidé d'une date de remise officielle de son texte. L'initiateur de la pétition souhaite le laisser circuler encore un certain temps. Contacté par nos confrères de Télébilingue, la direction des travaux publics de la ville de Bienne ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Elle attend de recevoir les signatures de la pétition.
Merci Estelle. Et toujours à Bienne, le conseil municipal répond à une pétition sur la ligne de bus 71. Le document signé par quelques 200 personnes réclame le maintien du tracé provisoire qui passe actuellement par la rue de l'Octroi. Cela à cause des travaux sur la Transjurane. En réponse, l'exécutif biennois indique que ce parcours ne pourra pas être pérennisé en cause des infrastructures inadaptées au trafic lourd et des coûts de renforcement qui se chiffreraient en millions. Des alternatives sont à l'étude, notamment une passerelle pour la mobilité douce. En revanche, une nouvelle ligne de bus dédiée au parc zoologique et à la rue de l'Octroi semble peu probable avant 2034, faute de rentabilité suffisante. Voyage ne rime pas toujours avec détente. La prévotoise Claire Tolotti en sait quelque chose. Elle qui s'est donnée comme au défi d'emprunter le GR20 en juin avec son fils Dany, âgé de 16 ans. Notre série Voyager autrement revient aujourd'hui sur leur expérience. Le GR20, c'est un itinéraire de randonnée de 180 km qui traverse la Corse. Claire Tolotti et son fils ont parcouru environ la moitié de ce trek, considéré comme l'un des plus difficiles d'Europe. Et rapidement, Claire Tolotti a dû faire face à un inconfort.
Il y a quelque chose qui m'a surprise dès les premiers kilomètres, c'est le poids du sac, en fait. Parce que, ben voilà, j'ai l'habitude de marcher des kilomètres, mais j'ai pas du tout l'habitude d'avoir un sac autant lourd sur les épaules. Et c'est vrai que les deux, ça nous a marqué. C'est vraiment le premier jour où on a débuté, puis qu'on a dû commencer avec ce sac sur les épaules. Ah, ça, c'était lourd.
Mis à part le poids du sac, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience ?
C'est avant tout l'aventure humaine, en fait. C'est incroyable parce que, ben, on a rencontré du monde en chemin. Et puis, ben, en fait, après, on est restés ensemble. C'est drôle parce qu'on a rencontré des duos. Et chacun de ces duos, c'était des duos parents-enfants, comme nous. Et ben, à partir du troisième jour, je pense, on a aussi commencé à marcher ensemble. Et quand on est arrivé à la fin, à Vizzavona, on était les six ensemble.
Vous avez aussi eu des difficultés pendant l'ensemble du trek ?
Quelques passages techniques difficiles. Il y a eu un passage aux aiguilles de Bavela où il y a une main courante et puis c'est de l'escalade en fait, mais c'était en descente. Et puis en descendant, c'est toujours plus compliqué qu'en montant. Dany est descendu avant moi, ce qui fait qu'il a pu bien m'aiguiller parce que comme moi je ne suis pas très grande, j'arrivais pas à poser les pieds et puis il a pu m'aiguiller et ensuite, ben, je m'en suis bien sortie et c'est allé. Mais c'est un peu l'endroit où moi j'ai transpiré. Sinon, il y a eu un autre endroit où lui a un peu plus transpiré parce qu'il y avait le vide en bas, donc il ne faut pas trop avoir le vertige. À certains endroits, il ne faut pas avoir le vertige. Oui.
Ce GR20, donc, vous l'avez vécu avec votre fils. Est-ce que ça a changé votre relation ?
Oui, je pense que c'est quelque chose qui marque. C'est une aventure qu'on va garder en mémoire et dans nos cœurs pour le reste de nos jours, vraiment.
Qu'est-ce que ça vous a apporté de le vivre ensemble ?
Ça a soudé nos liens, ça a resserré nos liens. Ça amène des souvenirs et j'ai l'impression en fait que c'est comme une petite vie à l'intérieur d'une vie.
Qu'est-ce que ce type d'expérience peut, selon vous, apporter par rapport à un voyage classique ?
Avant tout, ce que ça apporte, c'est l'aventure humaine, les connaissances qu'on fait sur le chemin, les liens que ça soude parce que on s'encourage entre nous. Et c'est quelque chose qui, je pense, reste gravé en mémoire beaucoup plus que des vacances au bord d'une piscine, finalement.
Qu'est-ce que vous aimeriez conseiller, vous dire, aux personnes qui hésitent à faire ce type d'expérience, donc un voyage plus sportif ?
Moi, j'ai envie de dire foncez. Foncez parce que ça en vaut la peine.
Des propos recueillis par Estelle Herman, Claire Tolotti et son fils ont parcouru la partie sud du GR20. La prévotoise n'exclut pas de tenter le nord dans le futur. Et c'était le dernier épisode de notre série Voyager autrement à retrouver sur notre site internet ajour.ch. Le mémorial suisse des victimes du nazisme franchit une étape clé. Un concours international vient d'être lancé par la Confédération pour choisir le projet. Il sera situé à Berne, sur la terrasse du casino. Soutenu notamment par la Fédération suisse des communautés israélites, cette initiative vise à honorer les victimes du nazisme tout en interrogeant le rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Trois volets structurent le projet: commémorer, transmettre et connecter. La décision du jury concernant le projet retenu sera rendue en 2026, le mémorial est devisé à 2,5 millions de francs. Comment s'organise-t-on quand on doit siéger durant 3 semaines au Parlement fédéral et qu'on a une petite fille à la maison ? C'est le défi que doit relever la conseillère aux États fribourgeoises, Johanna Gapani. Parvient-elle à s'immerger complètement dans son mandat politique bernois durant les 3 semaines de session ? Sa réponse.
La tête, en tout cas, c'est sûr. Et puis, en règle générale, je reste en début de semaine. Et puis ensuite, je rentre. Ma fille a 4 ans. Donc, autant dire qu'il y a aussi une vie familiale à préserver et du coup, un équilibre à trouver.
Bulle, Berne, ça va, c'est pas trop loin, c'est pas un trajet trop conséquent.
Ça, c'est notre avantage. Et puis en même temps, c'est notre défi parce qu'on n'est pas assez loin pour ne pas participer aux activités cantonales. Donc, il faut faire un petit peu aussi dans notre canton, évidemment, autant que possible. Et parfois, c'est la difficulté justement parce que c'est déjà bien chargé à Berne.
Quand on a une petite fille, est-ce qu'il faut là une organisation particulière ?
Pour toute personne qui a un engagement professionnel assez prenant, c'est un défi. Et puis, effectivement, il faut une organisation bien rodée pour que ça fonctionne. Et il ne faut pas trop d'imprévus, ce qui n'est pas si simple en politique, puisqu'il y a souvent des imprévus, mais ça fonctionne très bien.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Serge Jubin. Avec la fribourgeoise Johanna Gapani se termine notre série consacrée aux secrets d'organisation des parlementaires fédéraux durant les 3 semaines de session à Berne.
RJB Info, il est 12h23.
RJB Sport.
L'équipe de Suisse de football a écrit une nouvelle page de son histoire hier soir. La Nati s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro en obtenant le match nul 1-1 contre la Finlande à Genève. C'est une grande première pour les Suissesses. Les joueuses de Piasundagé ont concédé le 1-0 sur pénalty à la 79e minute, mais elles n'ont rien lâché et ont arraché l'égalisation, synonyme de qualification, à la 93e minute. Preuve d'un bon état d'esprit de l'équipe, explique la sélectionneuse Piasundagé.
Vous savez, j'ai remarqué que depuis que nous sommes dans notre bulle, je trouve qu'elles sont plus bruyantes. Elles dansent et elles créent cette énergie qui nous aide ensuite sur le terrain. Mais ce n'est pas que ça. Je pense que la raison pour laquelle on est qualifié, c'est parce que nous avons cette âme d'être à domicile. Il ne faut jamais sous-estimer la foule et la manière dont elle nous encourage. J'entends les joueuses qui parlent du public et c'est vraiment phénoménal.
Absolument phénoménal.
À Genève, plus de 26 000 spectateurs sont venus assister à ce match décisif. Entre tension et explosion de joie, le public a joué son rôle. Viola Calgaris a tenu à le soulever.
Je dirais, continuez comme ça. Je ne peux rien dire. Je crois que tout le monde fait un super job. Tout le monde qui est au stade, tout le monde crie, tout le monde est vraiment un fan. Je crois que je n'ai jamais vécu ça d'un Suisse. Il faut dire aussi, parce que les Suisses, des fois, sont plus un peu pas trop euphoriques. Mais là, ce euro, c'est vraiment un truc incroyable. Et je suis super fière d'être Suisse, super fière de tout le monde qui est au stade, que tout le monde qui est en dehors, dans la rue. C'est incroyable et un gros merci à tout le monde.
Des propos recueillis et traduits par notre envoyée spéciale à Genève, Lydiane Guena. La Suisse affrontera en quart de finale de l'Euro l'Italie ou l'Espagne. Une rencontre qui se tiendra le 18 juillet au Wankdorf à Berne. Le FC Bienne est en pleine reconstruction. Son nouveau président, Nick Lierti, ne chôme pas depuis sa prise de fonction officielle il y a un peu plus d'un mois. Si le staff est resté stable, de nombreux mouvements sont observés dans le contingent du récent finaliste de la Coupe de Suisse de football et pensionnaire de Promotion League. Le FCB a perdu plusieurs joueurs cadres, dont les défenseurs Damian Kelvin et Leon de Oliveira, le milieu de terrain Yann Massombo ou encore les attaquants Brian Beyer, Malco Sartoriti et Loïc Soka. Le président du FC Bienne, Nick Lierti, relativise cette situation.
En tout cas, ça bouge. On a de la chance que les anciens, comme Dietmar et Mauro, ils sont encore là, ils nous supportent. Ça, il n'y a aucune question. Donc, ils sont tous là pour le bien-être du club. Maintenant, c'est encore quelques semaines assez intensives, depuis juin jusqu'à jeudi fin juillet, pour définir la nouvelle équipe. Je pense qu'on est presque plein, on est sur une bonne route. Mais aussi au niveau des sponsors, il faut revisiter tous les sponsors. On a de la chance, ils restent la majorité, on a aussi plus de sponsors. Mais il faut faire tout ce travail. Et il y a aussi un travail de réorganisation qu'on veut faire de notre administration, de notre organisation, pour être préparé pour la saison. Donc tout ça, ça prend un peu de temps.
Il y a eu beaucoup de départs au FC Bienne, des joueurs très importants. Toute la colonne vertébrale, en quelque sorte, est partie, pour ainsi dire, des Biennois bien installés aussi, de Oliveira, Kelvin. Comment vous avez vécu cette situation?
Pour les joueurs qui ont pu partir, on souhaite tout de bon, une bonne chance. C'est aussi un peu notre but et notre devoir de former les jeunes joueurs pour qu'ils puissent faire carrière. Et là, je suis très content et aussi fier que Damien, Lyon, des joueurs de notre région ont fait le saut. On aurait aimé les garder, mais là, il faut être correct. C'est leur carrière, s'ils ont de la chance, il faut les laisser partir et souhaiter le mieux possible. Concernant la colonne vertébrale, un peu les anciens joueurs, entre guillemets, ceux-là, on a pu garder. Anthony Freitas comme capitaine est resté, Omar Tsongalic il est resté, Freddy Meng est resté, Thomas Monnet est revenu de Baden. C'est important pour former les jeunes d'avoir un peu des joueurs avec de l'expérience qui restent, qui connaissent le club et qui peuvent former de nouveau une bonne équipe pour la saison qui va venir.
Cette épopée en Coupe de Suisse, on l'a dit, elle a coûté cher pour certains joueurs qui se sont mis en évidence et qui sont partis du coup en Super League, en Challenge League. C'est aussi une publicité pour vous, c'était plus facile d'aller chercher des joueurs grâce à cette expérience que toute la Suisse a vue finalement.
Absolument, on a eu beaucoup de téléphones, soit des agents, soit des joueurs eux-mêmes qui nous ont contactés s'ils peuvent venir chez nous parce qu'ils ont remarqué, on est un bon club formateur, on a une belle infrastructure, on a de bons supporters, il y a de l'ambiance, on est sérieux, on paye les salaires. Et que chez nous, on peut faire un pas en avant dans sa carrière.
Au niveau des objectifs, cette fois-ci, on a connu un FC Bienne qui a échoué de très peu à la promotion la saison dernière. Cette année, avec énormément de changements dans l'effectif, quels ont été vos mots pour le groupe? Quels sont les objectifs concrets du FC Bienne?
Les objectifs, c'est arriver à la 7e place minimum qui nous permet de participer à la Coupe Suisse. Si c'est un peu plus, tant mieux. Moins, on ne veut pas.
Des propos recueillis par Michel Léoni. Le FC Bienne a par ailleurs annoncé hier la signature de l'attaquant Ilion Sebounia en provenance de Vevey. Plusieurs autres joueurs ont aussi décidé de rejoindre la Tissot Arena. C'est le cas du défenseur Thomas Monnet et Modibo Camara et du joueur de couloir Uros Vasic. Une jeune skieuse qui rêve d'atteindre les sommets, Vicky Valla, est en pleine préparation estivale pour une nouvelle saison de ski freestyle. La prévotoise de 12 ans a signé de belles performances l'année dernière en slopestyle. Elle a notamment remporté le Tour Freestyle Roman et pris la deuxième place des championnats suisses des moins de 13 ans. Vicky Valla participera cet été à un camp avec le cadre valaisan de la discipline à Innsbruck en Autriche. La jeune skieuse rêve de participer aux plus grandes compétitions de slopestyle. Avant cela, elle a déjà des objectifs en tête pour la saison prochaine. Vicky Valla.
Je vais faire le Tour Freestyle Roman et puis les championnats suisses. J'ai commencé le ski quand j'étais plus petite et avec des amis, ben, on faisait beaucoup de freestyle et du coup ça m'a motivée.
Et pour la suite de votre carrière, vous avez des objectifs déjà aussi en tête ?
J'aimerais bien aller aux X Games, c'est une compétition où il y a beaucoup de très forts.
Quels sont vos modèles ?
Il y a Mathilde Gremaud, je pense que c'est elle ma rideuse préférée. Elle est vraiment très forte. Elle a beaucoup de style en l'air et puis elle a gagné beaucoup de compétitions.
Racontez-nous votre run parfait.
Je pense que le run que j'aimerais vraiment faire, ce serait Cork 7 et Backflip. Cork 7, c'est un backflip avec deux tours en l'air et Backflip, c'est un supérieur air.
Vicky Valla répondait à Florian Wolfer. Merci de nous avoir suivis. Une bonne suite de journée à vous. RJB Sport.